Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Toujours dans nos lectures en liberté, pour la suite du roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde. Cependant, le train s'était formé dans d'horribles secousses. Trois wagons, avec un poêle au milieu et une plateforme ouvragée à chaque bout. Les cheminots que je tutoyais m'escortèrent de leurs vœux. La voie décrivait une large courbe autour du village. Le front contre la vitre du compartiment, je vis la dégringolade de nos toits de tuiles pivoter autour du clocher de la nouvelle église qui, sincèrement, ne valait pas l'ancienne. Je m'humectais l'œil de toute la pluie retenue aux branchages des haies entre lesquelles je ne m'aventurerais plus. J'essayais d'imaginer parmi mes lourds compagnons de chasse celui qui convoiterait ma femme avec le plus d'ardeur. Puis, quand tout se fut un peu estompé, j'entamai hardiment la provision de biscuits dont ma mère m'avait lesté. Pas du biscuit d'explorateur ou de soldat, mais à 24 goûters comme j'en emportais autrefois en pension. À Angoulême, je changeai, c'est-à-dire que je fis peau neuve, profitant de 2 heures d'arrêt pour m'acheter une veste à carreaux et troquer mes déterminations frissonnantes contre une conviction plus virile. En outre, je pris un supplément de première classe à la mesure de mon ambition et m'endormis avec aisance pour accumuler des forces jusqu'à Paris. Je ne me réveillai qu'au soleil d'Austerlitz. Sous ces dehors assez minables, la gare d'Austerlitz vous offre aux déboutés un grand pont du Jardin des Plantes, le métro aérien, les berges de la Seine, hérissées encore d'un taillis de grues picotantes. La pierre, l'eau, le métal et cette verdure discret rappel contribuèrent à mon enchantement. Le train venait d'Hendaye. Je me distinguais du flot des voyageurs accablés de coups de soleil par ma pâleur ardente. Elle me désignait à l'intimation haineuse des porteurs au carrousel des taxis. Je n'avais pas besoin de ces intercesseurs pour recevoir l'investiture de ma ville natale. Croyant pousser les portes du métro, je faillis repasser sur le quai de départ. Il m'a paru à cette occasion que les gens apportaient beaucoup plus d'allégresse à quitter Paris qu'à la retrouver. Ce fut mon premier étonnement. Avec le recul du temps, je me demande si j'ai savouré à son juste prix cette matinée vierge où mon pot de fleurs coincé à la saignée d'un bras, l'autre retenant mes colis en cascade, je franchissais des ponts, traversais des places, sillonnais des boulevards, parfaite allégorie de l'innocence aux mains pleines. Aujourd'hui, je me lève tard. Je veille fort avant dans la nuit. Dans quelle attente ? J'ai oublié que mes bonnes joies furent des joies du matin et la relève légère me trouve endormie. Mes yeux étaient ouverts. Toute ma malice se dissipait dans les vapeurs d'un âge nouveau. C'était l'aurore du monde. Hésitant entre la rive gauche et la rive droite, sautant de l'une à l'autre, j'allais sans but, cueillant ici le Sacré-Cœur dans l'échancrure d'un toit, là la tour Eiffel, heureux que le pont neuf fût à l'endroit que lui assignait le catalogue de la belle jardinière. Je ne m'étais pas trompé de planète. D'instinct, je m'avançais vers l'ouest, comme tous les conquérants, vers ce coude lumineux où la cité semble s'accroupir sur le bord du fleuve, lavandière aux maisons plus blanches. Je ne percevais pas les bruits autour de moi, mais une rumeur confuse. Le chant du large après les échos précis de la prison. L'avais-je assez entendu, l'enclume du forgeron ? Je touchais enfin au port. L'impression que je ne parlais pas la langue du pays ne s'imposa pas tout de suite à moi. Au détour d'un monument, au coin d'une rue, je faisais lever des compagnies pépillantes de touristes. Ils s'enfuyaient à mon approche dans un envol bigarré d'étoffes claires et se perchaient sur des autocars. Les personnes à qui je me hasardais à demander mon chemin me répondaient en anglais ou en suédois ou en espagnol. Le sourire était notre monnaie d'échange. Je m'acclimatais à cette idée qu'il était naturel qu'aucun être humain ce jour-là ne fût de Paris, sauf moi. Ma confiance ne s'altéra un peu qu'au débouché de la place de la Concorde. Elle était vide, à l'exception d'une pèlerine de gardiens de la paix abandonnée sur une balustrade. Je crus reconnaître la défroque de l'agent du 15 août, telle que les photographies des journaux le célèbrent chaque année, solitaire et dérisoire, prêchant le passage clouté dans le désert parisien. Je cherchais en vain son squelette calciné au pied de l'obélisque. Une chaleur épaisse montait du trottoir. Mon front ruisselait. Le veston de sport dont j'étais si fier quelques heures auparavant s'avérait trop lourd et fleurait l'apprêt. J'eus le soupçon que la capitale souffrait d'un arrêt du cœur. Un ciel soudé aux horizons la tenait sous cloche. Il éclatait que ma silhouette sombre, ma fébrilité compromettaient un coma vertigineux, mais que le son de mes gros sabots ne suffirait pas à réveiller la belle au bois dormant. Cette considération me ramena au souci de mes desseins immédiats. Sans m'être tracé de plan bien défini, j'étais résolu à ne pas perdre de temps. Mes appétits, limités provisoirement aux vivres et aux couverts, exigeaient que je me fisse connaître pour mon sérieux et pour mon zèle. Le vagabondage ne serait consenti plus tard dans les loisirs de cette existence double que j'entendais mener en large de ma carrière de bon jeune homme. Appuyé contre la terrasse des Tuileries, je m'obligeai à relire calmement les lettres de recommandation que je serrais dans mes poches. Je n'allais pas me laisser déconcerter par l'évidence qu'on ne m'attendait pas. J'avais des intelligences dans la place. Néanmoins, la partie risquait d'être plus rude que je ne l'avais envisagée, et l'idée que Denise pouvait avoir les yeux fixés sur moi me chatouilla désagréablement. Je n'avais pas pensé à elle depuis la veille, ni à mes enfants, sinon pour m'assurer dans le sentiment que je ne redoutais rien pour eux. Ma propre indifférence me fendit l'âme soudain et je me surpris dans l'éclair d'un instant à me demander ce que je faisais là. C'était précisément l'une de ces molles dispositions, séquelles de ma vie rêveuse qu'il fallait proscrire à toute force. » Après m'être attendri un bon coup, je m'arrêtai à cette décision dont le symbolisme enfantin ne m'échappa point. Je retirai gravement mon alliance de mon doigt et la rangeai dans mon portefeuille avec précaution. J'allais reprendre ma route quand une voix au-dessus de moi s'exclama « Ah, c'est du propre !» Le ton était goguenard, mais tout ce qui vient d'en haut m'a toujours donné le frisson. Levant la tête, j'aperçus dans la perspective ouverte par deux brodequins une face humaine à la renverse, empreinte de la plus abjecte connivence. C'était l'agent de police, aussi rubicond que sa fourragère, qui se tapait sur les cuisses devant l'orangerie. Je m'écartai du mur et il accompagna mon mouvement d'un franc clin d'œil. « Où on la voit, la province, elle ne s'embête pas, elle vient se payer des petites femmes !» Et avec l'argent de qui, je vous le demande? Le bon argent du Parisien, moi, monsieur. Pendant 4 ans, j'ai fait des kilomètres dans la campagne en dehors de mes heures pour chercher le ravitaillement que vous cachiez dans vos lessiveuses. Le résultat, c'est que j'ai abreuvé vos sillons, comme on dit. Il pérorait, appuyé contre la rambarde, et quoique j'en eusse, je demeurai figé, les épaules rentrées. « Là-dessus, poursuivit-il en s'enflammant, je prends ma part de la libération de Paris. Je pense en quelque sorte que le jour de gloire est arrivé et que je ne verrai plus vos figures, si vous permettez. Eh bien, pas du tout. Voilà que vous venez jusque dans nos bras pour vous envoyer nos filles et nos compagnes. Alors là, je vous dis, au musée, vous en aurez des bonnes femmes, à poil, au musée. » Il pointait du pouce vers l'orangerie, le képi rejeté en arrière, intoxiqué par trop de commémorations, d'apéritifs et de marseillaises retrouvées. Ah, seulement la culture française et Van Gogh, c'est comme le sang civique, vous vous asseyez dessus. Remarquez que je vous demande même pas d'ouvrir vos valises. Qu'est-ce que j'y trouverai? Du beurre? Un poulet peut-être? Maintenant, vous livrez à domicile, vous me direz que c'est un progrès. Non, monsieur, je m'adresse aux populations rurales pour leur déclarer que si je passais gendarme, elles comprendraient leur douleur. C'est tout. Dites donc, il n'est pas encore midi? Moins le quart, répondis-je, après avoir consulté ma montre avec un empressement servile. Encore 2 heures, maugréa-t-il rêveusement, comme pour lui-même. Ce que nous sommes au fond, nous sommes des laboureurs du bitume. Et ce que vous nous faites là, monsieur, ça n'est pas très joli. Allez, circulez. D'abord, je ne l'entendis pas de cette oreille. J'étais interloqué par le tour qu'avait pris la plaisanterie et anxieux de me justifier. Cet homme, abruti par 25 années de brouhaha, laissait transparaître son dépit amoureux. Je connaissais ce rongeur aux tenailles doubles. Quelle erreur d'aiguillage avait fait de ce facteur de village un sergent de ville. Mais il me coupa aussitôt. « Circulez, je vous dis. Sans en avoir l'air, vous êtes devant un monument. Rentrez-moi tout ce déballage. » À la hauteur de mon regard, je vis des plaques scellées dans le mur auquel je n'avais pas pris garde en m'y adossant. Ici est tombé, victime de la barbarie allemande, le brigadier. Nous avons versé assez de sang pour être respectés sur notre pavé, dit la voix au-dessus de moi. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de vos fleurs, ça pourrait être l'occasion. J'étais sur le point d'obtempérer. D'autant plus que ce pot commençait à m'embarrasser lorsque l'agent tourna les talons et disparut derrière une statue. Ma naïveté n'était pas si grande que je dusse accepter cette carte forcée. Ne le voyant pas reparaître, je ramassai prestement mes affaires et m'engouffrai dans le métro. L'aube de la culpabilité est délicieuse. J'en avais l'échine agacée.
Je suis toujours en partance. Je vis contre le cours de ma vie. S'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Parti, même loin de quelqu'un ou de quelqu'une, même pas pour aller chercher. Partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent serait du vent. Mais c'est vrai, le temps nous prend trop de temps. où la peau change de couleur. Partir avant qu'on meure. Partir, partir, comme les trains semblent quand on y pense, et les bateaux heureux quand on y danse. Au partir sans rien dire.
Lecture en liberté, Denis Flageol.
L'humeur vagabonde, Antoine Blondin. Dans le métro, j'étais sauvé, je me dirigeais facilement. Ce système nerveux m'était familier pour l'avoir étudié au jardin, sous la lampe, derrière mes pupitres d'écoliers. Rendu à l'abstraction, les symboles étoiles ou madeleines, les correspondances intimes entre Villiers et Havre-Caumartin s'ordonnaient avec la vigueur de l'algèbre. Quand cette agglomération sera méconnaissable ou détruite, c'est sous la terre qu'il faudra relever la topographie légendaire. Des archéologues se régaleront. Ils travaillent en profondeur, ils sont dans la bonne voie. À part la vérité qui sort du puits, nous avons une tendance fâcheuse à considérer que nos autres divinités sont des divinités en l'air. Je me disais ces sornettes, et bien d'autres en déambulant à travers des couloirs aveugles. La préposée au poinçonnage, dont j'interrompis la lecture, toisa mes bagages d'un air accablé. « On revient de vacances ? Et c'est pour moi, ce beau bouquet !» Elle était blonde, plutôt palote, avec une crânerie touchante dans le calot. Je lui suggérai de m'avoir adopté pour ce que je n'étais pas. En même temps, ma main se crispait sur l'azalée de Gustave. La jeune femme ne put s'empêcher de rire. « Un homme avec des fleurs. Le plus empoté, c'est l'homme. »« Celles-ci reviennent de loin, dis-je. Elles ont une sacrée valeur. Heureusement qu'on ne se bouscule pas, et pour me mettre à l'unisson, montrant le quai où nous étions seuls, un jour comme aujourd'hui, vous devez en être de votre poche.
Oh, c'est l'été, dit-elle, chacun se ramasse.
Moi, je prends mon congé en hiver à la montagne, à cause des poumons. Ce qu'il me faudrait, ce serait vivre à la campagne.
Une rame s'annonçait dans le fracas, et son visage se ferma avec le portillon. Elle se dressa, mue par l'automatisme de sa fonction, échangea quelques consignes avec le chef de train, puis, tandis que le convoi défilait devant elle, se replongea dans son feuilleton, sans un regard à mon intention, sans le moindre geste de la pince. L'âme souterraine de Paris retombait en veilleuse.
J'ai été souvent frappé par la qualité brutale de ces séparations. À la campagne, on s'éternise. On est moins liant et moins déliant. Ici, les rencontres sont des duels. Dans les débuts, j'en ai souffert. Cette ville ne serait-elle pas une ville affectueuse? À part quelques amis, on n'y connaît vraiment que le dos des gens. J'émergeais des entrailles à la station Pereire. La torpeur semblait avoir épargné ce secteur. C'est un quartier où les jeux ne sont pas faits. Chaque heure y sonne le glas d'une divette et la naissance d'un garagiste. Cette substitution patiente de vieilles cigales par de jeunes fourmis le maintient en état d'alerte.
À peine m'étais-je engagé sur la chaussée dans la direction du refuge, qu'une meute de véhicules me bondit au mollet. Des jurons m'assaillirent comme des aboiements. Je n'espérais pas meilleur signe de vie. Ces voitures déchaînées, c'étaient les chiens de marraine lâchés dans la fournaise qui me reconnaissaient et me faisaient fête.
Je n'avais pas revu ma reine depuis mon baptême, et à mes yeux son existence procédait du mythe, surtout à l'époque des étrennes. Elle travaillait autrefois dans le même magasin que ma mère, qu'elle subjuguait par sa faconde et ses cheveux roux. Depuis, elle nous écrivait à intervalles irréguliers pour nous expliquer qu'elle n'avait pas le temps de nous écrire. Aux dernières nouvelles qui remontaient à assez loin, elle était gardienne d'immeubles entre Pereire et Champéret. J'imaginais une sorte de vestale attentive aux soins de son bâtiment. C'était la personne stable et fidèle dont on pouvait faire son fourrier. Gardée par les automobiles, ma reine l'était aussi par le béton armé. Elle habitait le cœur d'un bloc de maison imprenable et sonore, posé sur quelques carrés d'herbe, à mi-chemin des hôtels particuliers à la dérive et des ateliers à la redresse. Il s'en dégageait l'impression que la vie n'est pas drôle tous les jours et qu'il vaut mieux s'accommoder du passage ici-bas en se serrant les coudes. Il faisait presque frais dans cette tranchée ouverte entre deux falaises beiges où le soleil se retenait de basculer. Un arbre étriqué, les branches levées comme d'un vieillard qui se peigne, ramenait ses mèches parcimonieuses d'un seul côté vers la lumière. La disposition des rez-de-chaussée permettait de plonger du regard dans des intérieurs uniformément confortables et mesquins, où d'anciens jeunes ménages s'alimentaient entre quatre yeux. Nulle voix d'enfant ne s'élevait, si ce n'est le glapissement d'une nabote prodige qui vous traquait à la radio d'une fenêtre à l'autre. Sur le moment, je ne fus pas très sensible à cette médiocrité installée, plus troublante que la misère, dont le pathétique insoutenable porte du moins la dignité du provisoire. J'étais tout à l'émotion de mettre un visage nouveau sur cette première étape et prêt à me laisser attacher ou retenir par lui. Je partageais avec ma mère un fond de taquinerie paysanne et cette croyance commune aux êtres désœuvrés que la surprise rehausse le plaisir. Nous n'avions prévenu personne de mon arrivée. Par simple religion du coup de théâtre. C'en fut un.
avisant une pancarte soulignée d'une flèche, je frappai à la loge de la concierge pour demander à celle-ci où était la gardienne. La porte entrebâillée livra passage à un buste d'ogresse extrêmement chaste qui me répondit que les deux notions se confondaient. J'hésitais si je devais ménager mes effets ou me jeter contre cette poitrine qui faisait écran à un fumet de paupiètes de veau, quand l'ogresse reprit avec impatience. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est moi, Benoît, » m'écriai-je avec une ardeur qui se voulait contagieuse, mais n'éveilla en face qu'une perplexité agacée. Benoît. Benoît, pourquoi faire ? Par-dessus son épaule, mon portrait, en brassière, dans un cadre moderne, m'assurait qu'elle tenait ses sentiments à jour. Allons, madame, lui dis-je, c'est vous-même qui m'avez choisi ce prénom. En appuyant mon sourire, lequel devint très fin, je lui tendis la lettre de ma mère qui commençait par « Ma bonne Simone !» Des moments comme cela, pensais-je, vous payent de bien des choses. L'ogresse, piquée par la curiosité, ouvrit de confiance l'enveloppe qui n'était pas cachetée, commença à lire, en lut sans doute davantage qu'il n'eût fallu, car elle avait déjà tourné la page lorsqu'elle se renversa brusquement en arrière avec un grand sursaut de protestation. « C'est une erreur !» s'exclama-t-elle. « Vous direz à Madame Augendre que je ne l'ai pas ouverte par mauvaise intention. Je ne voudrais pas qu'elle croie que je profite de la situation. » J'appris que ma reine était partie pour Deauville, où elle était l'invitée du casino. Depuis qu'elle était députée de la Seine, l'ogresse la remplaçait plus souvent qu'à son tour. « Et quoi, je ne savais pas ? Je ne lisais donc pas les journaux ?» Madame Augendre était passée troisième sur la liste du groupe paysan de Paris, 3e sur 10, parmi lesquels on comptait des hommes et un curé. Pour une femme, mais qu'est-ce que vous pouvez demander de plus ? Et c'est qu'elle leur en fait voir. La fois où j'aurais voulu être là, c'est quand elle a montré sa culotte au président Herriot à propos du tiers provisionnel, en pleine séance, s'il vous plaît. Il n'en faut pas plus pour devenir un personnage. Hier encore, on l'a photographiée sur la plage. Ce tour de hanche a repoussé un amendement. Vous n'êtes pas au courant, vous, alors ? Je lui répondis que notre gazette était prodigue surtout de chroniques agricoles et que les paysans, fussent-ils de Paris, en tireraient profit s'ils n'avaient la tête à la frivolité. Au vrai, j'étais décontenancé, comme si une marche eût manqué sous mon pied. Ce n'était pas que cette promotion extravagante me surprit tellement chez ma reine, dont ma mère m'avait souvent parlé comme d'une personne fantasque et douée d'une grande autorité sur ses compagnons de rayon. Elle répondait à l'image où je m'étais complu d'une capitale aux fortunes changeantes et me flattait plutôt agréablement, mais en même temps, je sentais s'accomplir une fissure secrète entre les lois les plus élémentaires de mon système. Ma seule présence à Paris aurait dû suffire à épuiser tout l'insolite de cette journée. J'avais maintenant besoin d'une table pour poser mes coudes. C'est ce que l'ogresse flaira. Midi sonnait dans sa vaste poitrine. Elle précipita le mouvement. « Vous comptez rester longtemps ?» Je viens pour m'établir, je suis né ici, j'ai mon bachot. Je ne discute pas, dit-elle. Vous avez voyagé toute la nuit, vous êtes fatigué, et ma reine n'est pas là. Moi, je ne peux pas vous laisser monter dans les étages. Il y a bien la chambre du milicien qui est libre, mais je n'ai pas reçu d'instruction. Aujourd'hui, les gens sortent de prison pour un oui ou pour un non. Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de chercher un hôtel dans le quartier pour poser vos valises, vous changer, attendre. La semaine prochaine, Madame Augendre sera rentrée. Elle doit se rendre à Aix-les-Bains pour un congrès. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Antoine Blondin, L'humeur vagabonde, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.